Europe 1. Bienvenue au cœur de l'histoire dans les interviews du vendredi. Je suis Virginie Giraud. Aujourd'hui, je reçois l'historien et enseignant-chercheur David Michon qui travaille sur les patrimoines littéraires et gastronomiques du 19e siècle à nos jours. Bonjour David Michon.
Bonjour Virginie Giraud.
On y vient pour prendre son expresso, se désaltérer, s'abriter de la pluie, patienter entre deux rendez-vous. Mais au-delà de cette réalité prosaïque, les restaurants sont un lieu de pouvoir où se rencontrent hommes et femmes de la haute société. Alors David Michon, dans votre livre, vous faites un parallèle entre l'apparition des grands restaurants parisiens et les grands travaux menés par le baron Haussmann durant le Second Empire. Ils apparaissent en même temps ?
Alors, disons que les grands restaurants n'apparaissent pas avec le Second Empire, mais disons plutôt qu'ils se diversifient, c'est-à-dire que de plus en plus de Parisiens y ont accès. Alors attention, on parle là des couches aisées, bien sûr, des couches favorisées, mais on a des typologies qui se diversifient, qui deviennent hétérogènes. C'est un lieu qui devient en tout cas incontournable, et incontournable en fait des sociabilités mondaines. On va désormais au restaurant comme on va au théâtre ou à l'opéra, hein, deux lieux qui sont aussi en mouvement, en construction et reconstruction sous les travaux du célèbre baron et préfet Georges Haussmann. Alors avant même le restaurant, il faut surtout penser qu'il s'agit là du lieu, certes, mais du lieu qui permet d'assouvir un besoin primaire, c'est-à-dire se restaurer. On mange et on mange, on va dire, en collectivité. Alors, si on réfléchit un petit peu à cette histoire-là, elle a à peu près 5 siècles, hein, quand même. Elle n'est pas forcément que française, bien sûr, mais les gouvernants, en fait, ils utilisent la table pour sceller des alliances, hein, pour affirmer aussi des rivalités. Et les cours européennes en font largement usage. Alors, je pense que certains de nos auditeurs ont probablement entendu parler de Taïwan. Taïwan qui est un cuisinier.
Alors, on peut rappeler qui il est.
Voilà, c'est un cuisinier français du XIVe siècle qui a servi Charles V, Charles VI. Alors, on déploie des somptuosités, tant dans les quantités, dans les présentations, et ça jusqu'au XIXe siècle à peu près. Et du XVe au XIXe siècle, en plus, prime le service qu'on appelle à la française. Alors, qu'est-ce que le service à la française ? Ce sont des plats chauds, des plats froids et qu'on sert en même temps. Donc, quand on parle de faste aussi, c'est de la quantité. Ensemble, et d'ailleurs sur plusieurs temps, et on connaît ces temps différents encore aujourd'hui. Le potage, ça parle à tout le monde. Les entrées, les rots, on entend un peu moins ce que ça signifie. Ce sont des viandes rôties, des pièces rôties, des entremets et des fruits. Aujourd'hui, on appelle ça des desserts. Avant, c'était des fruits.
Ce qui constitue les 5 services à la française.
Voilà, exactement. Donc, c'est une véritable parade. On peut rappeler, par exemple, en 1784, le roi de Suède, Gustave III, est invité au Trianon par Louis XVI et Marie-Antoinette. On a un repas, là, en 4 services. Et je ne peux pas résister à vous dire que le seul service des entrées comportait 24 plats.
Alors, justement, au XVIIe siècle, Bossuet disait déjà que c'est à table qu'on gouverne. Donc, les restaurants comme lieu de pouvoir, est-ce que c'est une spécificité française ?
Alors, disons que les Français ont surtout écrit assez tôt leur cuisine. Et ça, c'est important. C'est important pour les chercheurs, pour les historiens, parce que ce sont nos sources actuelles. Et officialiser une cuisine qui se dit française, on peut dire que cela date à peu près de la publication du cuisinier François en 1651 par la Varenne. On est sous Louis XIV. Et la table est un puissant outil diplomatique. D'ailleurs, il y a un bel ouvrage qui s'appelle « À la table des diplomates » de Laurent Stefanini. Il donne quelques exemples de ces grands repas qui ont rythmé la vie diplomatique française. Alors, une spécificité française peut-être, mais disons que les gouvernants ont très tôt en fait attaché de l'importance. Alors, quand je dis importance, ça veut dire des fonctions précises et de l'argent à cette table comme un instrument du pouvoir dans les relations internationales. Relations internationales, on parle de la France, on aurait pu parler de l'Italie, mais elle n'a pas la même démarche à cause de son émiettement politique, pour reprendre les mots du géographe Jean-Robert Pitt.
Oui, parce que l'Italie devient un pays moderne et unifié seulement à la fin du 19e siècle.
Exactement. Ou alors l'Angleterre aussi, on pourrait se poser la question. Mais en fait, l'Angleterre, elle voit souvent ses aristocrates rester largement sur leurs terres et ne pas toujours gagner les villes. Donc vous citez Bossuet à juste titre. Je citerai le grand Escoffier qui dit « L'art de la cuisine est peut-être une des formes les plus utiles de la diplomatie. »
Alors justement, revenons au 19e siècle. Quelle place occupe le restaurant pour les acteurs, les hommes politiques, les journalistes et toutes les personnalités de pouvoir ?
Alors le restaurant, c'est un lieu finalement de réunion pacifiée. On va pas l'opposer au café, mais c'est vrai que les cafés souffraient d'une réputation un peu sulfureuse.
Jusqu'au 18e, on débat dans les cafés.
Exactement. Et d'ailleurs, petite malice, mais il y en a plusieurs qui deviennent, qui se transforment en restaurant. Et le restaurant, il offre un cadre soigné, on est assis, on est parfois à l'écart aussi, mais dans le respect de certains codes. Donc cette importance du lieu, on peut la trouver aussi marquée par l'hommage que font les chefs à certains hôtes de marque, pas toujours des habitués, hein, mais qui ont, disons, plutôt déjà un certain sens de la communication, des financiers, des artistes ou des politiques. Et les cuisiniers, ils marquent l'histoire en donnant à une recette, notamment à un nom, qui a la puissance d'une marque, hein, assez proche de nous. On connaît tous l'hommage de Paul Bocuse à Valéry Giscard d'Estaing avec la soupe VGE, par exemple.
Oui, ça, en plus, on est lyonnais tous les deux, donc voilà.
Voilà, exactement. Mais c'est déjà le cas, en fait, au 19e siècle. Notamment avec les fameuses pommes Anna en l'honneur de la courtisane Anna Delion, ou le potage Germini en hommage au comte de Germini qui était le gouverneur de la Banque de France.
Et le restaurant La Pérouse sert toujours le bœuf Wellington en hommage à Wellington.
Exactement, on a très souvent, encore aujourd'hui, des traces, on va dire, écrites de ce passé-là.
Et alors, au 19e siècle toujours, on voit arriver la naissance vraiment du déjeuner qui se met en place. Est-ce que le déjeuner est un moment propice au traitement des affaires politiques ?
Alors déjà, la naissance du déjeuner, elle consacre ce qu'on appelle aujourd'hui le temps libre. Alors il est pensé par chacun, avec des grandes disparités, évidemment. Mais il aboutit parfois à la structuration des restaurants, quand même, au choix notamment d'une place à table. Ça, c'est assez récent, ça date du 19e, voilà, c'est le propre du restaurant aussi. Une portion sélectionnée à partir d'une feuille de papier encadrée, les naissances aussi un peu du menu, au règlement d'une note, qu'on pouvait appeler d'ailleurs carte payante. Et donc, le restaurant, il témoigne d'une société qui est nouvelle, qui appréhende ce premier sacre un peu de l'individu, mais dans un contexte public. Donc, c'est un peu une histoire du temps libre aussi, post-révolutionnaire, une conquête un peu de l'espace public. Donc personne ne s'étonnera que le restaurant soit le lieu d'échange, de débat, mais aussi d'un entre-soi de classe, un espace de prestige, un goût de l'autre. Et ce temps du déjeuner, c'est un temps qui est médian, qui est au milieu d'une journée de travail. Donc logiquement, le sujet, c'est très souvent, bien sûr, le travail. Deuxième point, après le temps, c'est aussi la spatialité. Où est situé le restaurant ? Prenons un exemple, par exemple le train bleu Gare de Lyon. Dès 1901, bien sûr que sa situation n'est pas étrangère en fait, à son succès, au croisement de plusieurs destinations pour des politiques qui se déplacent déjà de plus en plus au début du siècle. Et aujourd'hui, c'est un succès qui perdure. L'explication est la même, s'y retrouver entre deux trains, sur un temps du déjeuner par exemple, ça reste un classique de ce qu'on appelle aujourd'hui le déjeuner d'affaires.
Voilà, avec un décor en plus historique. Et justement, Absolument. Parlons de ces déjeuners d'affaires, de ces déjeuners politiques. Est-ce qu'il y a un restaurant que vous pourriez nous citer en exemple où des décisions politiques cruciales auraient été prises ?
Alors déjà, peut-être ce qui est le plus important, c'est que les restaurants sont de plus en plus dans la culture française parce que notamment les artistes s'y rendent. Ils n'ont pas tous l'argent pour fréquenter les grands restaurants. Mais quand on lit les écrivains du 19e, on trouve de plus en plus des scènes autour des tables, autour des meilleures tables parfois. D'ailleurs, c'est souvent le moyen en fait, d'en dire davantage sur les personnages, sur leurs personnages, par des moyens un peu détournés. On a des artistes qui s'y rendent régulièrement et même qui nomment des groupes un peu de pensée en fonction de restaurants, notamment en 1862, le dîner Mani, qui est du même nom que le restaurant Rive Gauche, rue de la Contrescarpe, puis qui se passera au Brébant en 1870. Et s'y retrouvent justement des journalistes, des scientifiques, des politiques, des artistes. Alors, je peux vous citer Flaubert, Sainte-Beuve, les Goncourt aussi, qui s'en font les chroniqueurs un peu acerbes parfois. George Sand, qui est la seule femme admise. Gavarni, Maupassant, Berthelot, Taine, et puis des politiques aussi, notamment parmi les plus connus, Gambetta ou Paul Bert. Donc, c'est pas une œuvre qui en émane, mais peut-être qu'il s'influence, la parole est libre, les jugements donc parfois sévères, et on y rejoue surtout l'art si français de la conversation.
Alors, où est-ce qu'il faut aller au 19e siècle pour fréquenter ces gens-là ? Est-ce que s'il y en avait un restaurant, est-ce qu'ils existent toujours d'ailleurs ?
Alors oui, il y en a qui existent toujours, mais je vous ai parlé des cafés tout à l'heure, le café riche ou le café anglais surtout. Le café anglais, c'est le lieu qui est absolument fréquenté, notamment pour ses 22 cabinets particuliers, parce qu'on se montre. Mais en même temps, on a envie d'être dans cette intimité. Et le café anglais, d'ailleurs, Stendhal, qui était un habitué, on dit qu'il y allait près de 3 fois par semaine, nous dit Trois soupers par semaine au café anglais et je suis au courant de ce qui se dit à Paris. Donc, pour les Parisiens, c'est un véritable fantasme, un peu de ce culte du secret, mais pas si secret, hein, dans un lieu public. C'est un paradoxe intéressant. Et ces dîners célèbres, ils continuent. On en a de très nombreux et on en a aussi peut-être certains qui n'ont pas existé. Le fameux dîner des trois empereurs en 1867, année de la seconde exposition universelle de Paris, où on a le tsar Alexandre II, le roi de Prusse Guillaume Ier et le futur chancelier Bismarck qui auraient soupé au café anglais. Mais on a le menu aujourd'hui qui est justement gardé par la Tour d'Argent, mais on a du mal à trouver les sources primaires qui nous racontent un peu ce qui a pu se passer dans cette discussion entre les trois empereurs.
Et donc, on n'est pas sûr que cette discussion-là ait vraiment existé. Les sources ne l'attestent pas.
C'est considéré comme une évidence, mais sur des sources secondaires. On a un menu, on a des produits aujourd'hui qui se sont vendus comme, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était en 2008, il y a eu un foie gras. Foie gras des trois empereurs qui a été vendu, je crois, par la Tour d'Argent. Mais finalement, quand on regarde et quand on lit les chroniques de 1867, bah, on a du mal à savoir ce qui s'est passé. On sait à peu près les déplacements de ces empereurs, on va dire, mais on a du mal à se dire, bon, qu'est-ce qui s'est vraiment dit, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Donc, toujours pareil, c'est toujours intéressant d'aller voir les sources, mais au-delà de ces sources mêmes, ça montre bien qu'il y a un fantasme aussi autour de ces grands dîners. On ne sait pas trop ce qui a pu se dire, on ne sait même pas si certains ont existé, mais dans tous les cas, on en fait l'histoire et même c'est du patrimoine aujourd'hui.
Et quelle est la différence fondamentale entre les cafés et les restaurants? Est-ce qu'ils évoluent en restaurant ou est-ce que ce sont des endroits qui ont chacun leur spécialité?
Alors, historiquement, le café ne propose pas réellement une grande carte de plats divers et variés. On peut y déjeuner sur le pouce, bien sûr, mais des grands cafés qui se sont transformés en restaurants avaient déjà les atours d'un restaurant. Bien sûr, quand on parle du café anglais, café riche, ce sont devenus des restaurants, mais si on fait une distinction, notamment dans le décorum, c'est sûr qu'ils ont déjà tout d'un restaurant. Après, le restaurant consacre réellement une place par personne, le menu de plus en plus, le menu aussi à prix fixe de plus en plus, puisque avant, on savait pas vraiment ce qu'on payait. Donc, on a une évolution, mais qui se fait sur facilement une cinquantaine d'années entre la fin du 18e et la moitié du 19e siècle.
Alors, pour clore cette interview, on va aller au 20e siècle, mm-hmm. et ce qu'on appelle aujourd'hui la gastrodiplomatie, ces rencontres entre les journalistes et les hommes politiques lors du déjeuner. Est-ce que c'est un héritage de ces déjeuners du 19e siècle?
Alors en tout cas, c'est un peu c'est un héritage de ce que les cours royales ont voulu donner, en fait, à voir de leur pouvoir, déjà d'une, et de leur volonté même, qu'est-ce qu'on veut. Alors aujourd'hui, on peut parler de gastro-diplomatie, bien sûr, mais à petite échelle, on a plus des rencontres, en fait, entre des personnalités politiques et des journalistes, des rencontres qui sont souvent proches de leur lieu d'exercice. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, l'histoire de Marcel Debarge, un maire socialiste au Pré-Saint-Gervais, qui est une commune de Seine-Saint-Denis, et qui avait ses habitudes au restaurant Le Pouilly-Reuilly. Et il y a attiré, le 13 avril 1988, François Mitterrand, qui est alors en pleine campagne présidentielle, pour une réunion importante avec ses plus proches soutiens. D'ailleurs, sous l'œil curieux de quelques journalistes qui vont relater ce que le président a mangé. Mais plus proche de nous, le président Chirac, bien sûr, qui aimait faire bonne chère, on le sait, notamment de cuisine asiatique, et qui déjeunait chez Tong Yen, un restaurant chinois des Champs-Élysées, toujours à la même table, et logiquement, il était avec d'autres politiciens, des artistes, des journalistes aussi qui avaient leurs habitudes. Alors c'est sûr que plus proche de nous, maintenant, aujourd'hui, les temps, les budgets se réduisent, la loi aussi, hein, qui tend à cette contraction, notamment par rapport à l'alcool. On le constate d'ailleurs à l'étude des cartes, des menus du 19e à nos jours. J'invite tous nos auditeurs à se rendre sur Gallica.
Oui, le site de la BNF.
Absolument, avec un moteur de recherche qui va permettre de retrouver de nombreux menus de restaurants, mais aussi des menus présidentiels. Je pense à ceux de l'ancien chef des cuisines de l'Élysée, Guillaume Gomez, qui en a déposé à la Bibliothèque patrimoniale de Dijon. On voit que le choix des plats à la carte se réduit, le nombre de plats aussi dans un menu, bien sûr, et qui correspondent à l'exigence du frais, de la naturalité, un petit peu, à certaines règles nutritionnelles. Et dans les diplomatiques à l'Élysée, mais aussi dans les restaurants, opère ce même mouvement. Ça nous touche d'ailleurs dans le temps qu'on consacre au déjeuner, mais on est français. Donc cette véritable culture est même consacrée par l'UNESCO en 2010, avec la reconnaissance officielle du repas gastronomique des Français.
Merci David Michon pour cet échange autour des restaurants comme lieu de pouvoir. Je rappelle que votre dernier livre, 24 heures de la vie d'un restaurant, vient de paraître aux éditions des presses universitaires de France, les PUF pour les intimes. Merci à nos auditeurs d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio. Merci à vous tous d'avoir écouté l'interview bonus du vendredi. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée et si vous avez aimé, faites comme pour les bons restaurants, laissez-nous des étoiles.